franceinter.fr.
Il est 8h22.
Le 7-9 de France Inter, première matinale de France, à suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Bonjour Benoît Hamon.
Bonjour Patrick Cohen.
En réagissant dimanche soir en appelant à un maximum de candidatures d'Union de la Gauche aux législatives, vous n'avez pas dit ce que vous éprouviez à l'égard du nouveau président. Espoir, attentisme, hostilité?
Ah, je n'ai absolument aucune hostilité personnelle à l'endroit d'Emmanuel Macron. Je lui souhaite, comme tout le monde, de réussir, parce que les questions qui sont posées à la France sont lourdes. Elles sont lourdes sur le plan du chômage, elles sont lourdes sur le plan des inégalités, de la pauvreté, de la tension que l'on perçoit encore dans le pays. Donc je lui souhaite de réussir, mais en même temps je ne crois pas aujourd'hui son projet capable de répondre aux grandes transitions qui sont celles que vit notre pays, la transition écologique, la mutation du travail.
Vous n'y croyez pas, donc c'est l'opposition?
Oui, moi je suis dans l'opposition et je serai dans l'opposition à Emmanuel Macron, ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas intelligemment. Il y a dans une démocratie une majorité, une opposition, des idées différentes, des projets politiques. Mais pour dire les choses simplement, le président de la République, le nouveau président de la République, a lui-même posé les termes de ce qui caractérise une opposition et une majorité. Il ne croit plus à la gauche et à la droite. Mmh. Il pense aujourd'hui qu'un projet peut s'incarner dans le ni droite ni gauche. Moi, je pense que la gauche existe encore. Et parce que je pense que la gauche existe encore, je combattrai un certain nombre de propositions, comme la suppression de l'impôt sur la fortune, le recul des droits sociaux des salariés, la remise en cause des services publics. Je me battrai pour une vraie transition écologique. Je me battrai pour améliorer aujourd'hui les conditions de travail. Tout cela fait un projet politique et justifie que je me situe dans l'opposition librement, sereinement, tranquillement, sans pour autant que ça suscite, j'imagine, de cris d'orfraie.
Mais vous n'auriez pas un autre discours en démocratie si avait été élu un président issu de la droite, Benoît Hamon? Auriez-vous eu un autre discours si le président élu avait était issu de la droite?
Je me serais situé dans l'opposition de la même manière, parce que le projet politique n'est pas aujourd'hui un bon projet politique pour le pays. Je vais prendre quelques exemples, mais je considère aujourd'hui que nous avons besoin d'innovation sociale, nous avons besoin de penser le travail différemment. Je l'ai porté dans ma campagne présidentielle. Il reste attaché à une vision assez classique du travail, voire même à une précarisation du travail qui pourrait être la solution à ses yeux à la question du chômage.
La précarisation, par exemple?
En facilitant le licenciement, en renvoyant aux entreprises de soin de fixer les termes aujourd'hui du droit du travail. Moi, je ne considère pas aujourd'hui qu'il faille renvoyer à chaque entreprise les conditions dans lesquelles on protège ou pas les salariés. Ces choix politiques-là, qui consistent finalement à reprendre cette idée selon laquelle plus facilement on licencie quelqu'un, plus facilement on l'embauchera, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Je pense que ces modèles-là existent, ils peuvent faire l'objet de l'adhésion, et le président de la République y adhère désormais, en Allemagne par exemple, et ça s'est payé au prix d'une pauvreté qui a considérablement augmenté. Mon idée aujourd'hui, ça n'est pas de réduire le chômage au prix d'une pauvreté qui augmente. C'est la raison pour laquelle je me situerai sereinement, tranquillement, dans l'opposition.
Les ordonnances, c'est aussi grave à vos yeux que le 49-3?
Mais c'est grave, pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez tragique à ne rien retenir de leçons du passé. Le 49-3 a été vécu comme très mal par les Français. Pourquoi? Parce qu'il touchait à quelque chose d'essentiel, nos conditions de travail. Les conditions dans lesquelles, chaque jour, on gagne son pain. Les conditions dans lesquelles on sera peut-être licencié. Les conditions dans lesquelles on participe à la décision dans une entreprise. Ce sont des choses importantes. Et le fait qu'on soit passé au-delà de l'expression qui était celle d'une protestation dans la rue, de l'expression d'une protestation par les syndicats, l'expression d'une protestation au Parlement, par 49-3, a beaucoup choqué. Eh bien, reprendre le sujet du droit du travail et commencer par dire « nous passerons par ordonnance », c'est-à-dire sans écouter les partenaires sociaux, sans écouter le Parlement.
C'est pas ce qui a été dit. Parce qu'il a été dit.
C'est-à-dire,
il y aura une consultation des partenaires sociaux, ça a été répété par Emmanuel Macron. Et le Parlement, il y aura une discussion parlementaire. Dans le cas des ordonnances, une loi d'habilitation.
Écoutez, oui, mais une loi d'habilitation sur les ordonnances, ça ne veut pas dire qu'on discutera au fond de ce qui se passera dans un texte aussi important que celui-là.
Donc c'est aussi grave que le 49-3, c'est de même nature.
Je considère qu'il y a là une forme de déni de démocratie et qu'on poursuit dans une, finalement, une approche qui apporte assez peu de soins à la démocratie. Je trouve que nous sommes dans une période, justement une époque, où nous devrions nous préoccuper de la qualité du débat démocratique, de la qualité de l'intervention des citoyens. Et je pense que commencer par légiférer par ordonnance, eh bien, n'est pas un bon signal.
Vous pensez donc, Benoît Hamon, que le Parti Socialiste, dont on annonce encore la mort, et ce qu'a fait Manuel Valls hier, peut se refaire sur une opposition frontale au nouveau pouvoir?
C'est pas une opposition frontale. Moi, j'assume d'être dans l'opposition. Je défendais un projet fondamentalement différent de celui d'Emmanuel Macron, ce qui n'a pas empêché des électeurs de gauche de voter pour lui par vote utile, certains par sans doute adhésion. Moi, je ne renonce pas à l'idée de rassembler la gauche. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il se serait particulièrement curieux que je m'inscrive dans autre chose que l'opposition, tant finalement notre approche de la fiscalité, notre approche du travail, notre approche de la transition écologique sont différentes. C'est aussi simple que ça, je le fais sereinement, je vous le dis, tranquillement.
On pourrait peut-être vous retrouver sur la première loi qui sera présentée, qui est la loi de moralisation de la vie publique.
Mais bien sûr, je voterai certaines dispositions de cette loi si je suis élu parlementaire et député. Je voterai certaines dispositions, mais j'insisterai aussi pour la transparence sur les dons, comme je l'ai fait dans ma campagne, sur le fait qu'on soit véritablement demain indépendant au Parlement des lobbies privés, qu'on ne puisse pas exercer de profession en plus d'un mandat de parlementaire. Oui, j'irai au bout d'une vraie loi de moralisation de la vie publique, et j'espère que le gouvernement, en tout cas, s'attachera à le faire réellement, ne s'arrêtera pas au milieu du guet.
Alors, sur quel programme allez-vous mener campagne pour ces législatives? On a vu hier le PS oublier certaines de vos propositions de votre programme présidentiel, le revenu universel, la taxe sur les robots, la sortie du diesel et du nucléaire. Est-ce que ça vous semble un bon compromis?
Le 49-3 citoyen, l'essentiel des marqueurs qui ont été ceux de ma campagne électorale, de la part, pour certains d'entre eux, de dirigeants politiques qui n'ont ni fait ma campagne, ni sans doute voté pour moi. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'un parti tout aussi grand soit-il, tout aussi grande soit son histoire, ne peut pas enterrer de belles idées. Et de belles idées qui, de toute façon, continueront à féconder ce qui doit être la recomposition et la renaissance de la gauche.
Elles n'ont pas été très fécondes au premier tour, Benoît Hamon.
Mais je ne conteste pas que ce résultat, et je l'ai même assumé, personnellement, que ce résultat n'a pas été à la hauteur de mes propres espérances. Mais je voudrais dire d'un mot.
Vous avez parlé d'une sanction historique
qui est légitime.
Je
pense beaucoup plus de personnes à adhérer à mon projet qu'il n'y en a eu à voter pour moi. Et j'ai pu le percevoir tout au long de cette campagne, comme je le perçois encore maintenant. Je pense que ces idées sont grandes et qu'elles structureront la recomposition et la renaissance de la gauche. Et c'est à cela, moi, que je veux m'atteler, c'est-à-dire à l'avenir de ces idées, avant de me préoccuper de la façon dont les uns et les autres cherchent une stratégie de revanche ou une stratégie de survie. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le moyen et long terme. Comment la gauche va renaître de cet échec? Mais qui ne voit pas que, durant cette campagne électorale, il y a eu non seulement un débat de qualité parfois, mais que ce débat a permis, justement, d'être particulièrement innovant sur la question sociale, particulièrement innovant sur la question du travail. Qu'est-ce qui est, finalement, je regardais les enquêtes, et il apparaissait que la seule idée nouvelle que l'on a retenue de cette campagne, c'est le revenu universel. Et je trouve curieux que le Parti Socialiste abandonne la seule idée nouvelle qui a été évoquée pendant cette campagne. C'est la raison pour laquelle je continuerai, évidemment, à me battre pour ces idées, et à soutenir les candidats qui, évidemment, se reconnaissent dans ces idées.
Donc cette idée-là, comme les autres, elle est mise entre parenthèses pour cette campagne législative, mais vous ne désespérez pas de la faire renaître, de la faire revivre.
Elle est mise entre parenthèses par Jean-Christophe Cambadélis, elle n'est pas mise entre parenthèses par moi.
À part lui seul, par l'appareil du PS.
C'est par le Bureau National a adopté un texte sans vote. Très bien, moi je respecte les partis, je dis juste que c'est pas les partis tout aussi grands sont-ils, n'enterrent pas les belles idées. Moi je continuerai à faire campagne sur ces idées, évidemment, mais pas seulement pendant les législatives. Ce que je veux simplement dire, c'est que qui ne voit pas aujourd'hui qu'on a besoin de se régénérer autrement que par des textes qui cherchent à mettre d'accord tout le monde. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut être parfois audacieux, clivant, innovant, et si ça ne paye pas au début, si nous n'avons pas réussi à convaincre dès la première campagne, je pense que ce travail-là doit se poursuivre. Et je suis convaincu, je vous le redis, qu'il y a beaucoup plus de Français d'accord avec ce projet qu'il y a eu de Français à voter pour moi. Pourquoi ont-ils décidé à un moment de ne pas voter pour moi? Parce qu'ils ont eu le sentiment que je ne pourrais pas gagner. Et du moment où cette conviction s'est enracinée dans la tête de bon nombre d'électeurs de gauche, ils ont choisi un vote utile pour éviter le second tour Fillon-Le Pen, ce que je comprends parfaitement. Certains se sont portés sur le vote Mélenchon, d'autres sur le vote Macron. Est-ce que pour autant ces idées-là ont vocation à mourir? Non, et je continuerai à me battre, c'est ce que j'ai j'ai dit, je ne déserterai pas, je continuerai à me battre pour ces idées-là.
Le vote Mélenchon, puisque vous en parlez, Benoît Hamon, 620 000, vous connaissez ce chiffre, vous n'avez pas fini d'en entendre parler, parce qu'il est cité régulièrement par les responsables de la France Insoumise. 620 000, c'est le nombre de voix qu'il a manqué à Jean-Luc Mélenchon pour devancer Marine Le Pen, éventuellement être qualifié pour le second tour. Ils vous font, certains vous font porter la responsabilité de l'échec de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Que leur répondez-vous ?
Écoutez, je leur réponds que je ne crois pas que la gauche puisse se recomposer autour d'un seul homme. Je pense, j'ai beaucoup critiqué l'approche qui était tribunicienne, providentielle, de beaucoup à l'occasion de ces élections présidentielles. En même temps, c'est l'élection qui se prête le plus à cette approche providentielle. Je pense qu'il faut renoncer désormais, puisque nous rentrons dans un nouveau cycle, à l'idée selon laquelle la gauche ne peut se recomposer qu'autour d'un seul homme. Je pense que, au contraire, la gauche a toujours eu pour caractéristique d'être plurielle, diverse, et de ne pouvoir gagner qu'à condition qu'elle se rassemble. Et elle ne se rassemblera pas autour juste du destin d'un seul. Et c'est aussi simple que cela, c'est la caractéristique de la gauche française. Nier cela, c'est nier notre histoire et surtout fermer les yeux devant la seule voie qui nous permettra demain de reconquérir le pouvoir, le rassemblement et le respect de cette diversité, de cette pluralité. Moi j'ai mis des idées en débat, je n'ai pas mis une étiquette seulement sur la table le jour où je me suis présenté aux élections présidentielles. J'ai mis des idées en débat, elles ont structuré l'élection présidentielle. De la taxe sur les robots, 49-3 citoyens, la 6ème République, au fait d'assumer aujourd'hui mes convictions écologiques. J'ai décidé de porter le revenu universel, j'ai choisi le destin européen comme la voie par laquelle la France pourrait continuer à grandir. Ces idées, elles restent vivantes, je continue à les porter et je le dis à tous les électeurs de gauche, quels qu'ils soient, c'est autour de ça que nous ferons renaître la gauche, pas autour du destin d'un seul.
Un mot encore sur Manuel Valls, dont on vient d'apprendre par la bouche de Jean-Paul Delevoye, qui est chargé des investitures au sein du mouvement En Marche, qu'il n'aurait pas l'étiquette République En Marche dans sa circonscription de l'Essonne. Benoît Hamon, vous le gardez au Parti Socialiste ?
D'abord, je crois qu'il n'y est plus de facto, mais je trouve que il y a quelque chose d'un peu triste à tout ça. Il y a une vraie fin de cycle. Et je pense que ce n'est pas qu'une fin de cycle politique qui se caractérise par l'échec d'une formation politique dont j'ai symbolisé et incarné cet échec à l'élection présidentielle, puisque je porte ce fardeau-là, incontestablement. Mais je crois qu'il y a une forme de faillite morale. Et que dans cette faillite morale se joue aussi beaucoup des raisons qui justifient que beaucoup d'électeurs aujourd'hui, finalement, n'estiment plus ce que nous représentons, ce que le Parti Socialiste a collectivement représenté.
La faillite de qui ?
D'un comportement, celui de Manuel Valls, mais qui est celui aussi de ceux qui choisissent de ne pas voter pour ne pas soutenir le candidat désigné par des primaires, de s'affranchir finalement de toute règle, et qui cherchent à survivre ou à prendre leur revanche, quoi qu'il se passe. Moi, je crois à la force et à la puissance des idées, et je me bats pour cela, et je le redis, la tâche qui est la mienne, c'est de reconstruire et de rebâtir la gauche. Une série d'horreurs incertaines, comme disait Jaurès, mais je crois dans ces horreurs incertaines, parce qu'elles sont beaucoup plus prometteuses que l'opportunisme compulsif de quelques-uns.
Benoît Hamon, invité de France Inter, on vous retrouve dans quelques minutes, il est 8h34.